Épilogue. Un homme retrouvé mort à bord d'une péniche sur le canal. Décidément, songea Carla. Elle avait entendu les rumeurs, les petites blagues des autres femmes à l'heure du déjeuner.
C'est encore un de tes mecs, Carlita?
On ne t'arrête plus, dis donc. Cet après-midi-là, elle se rendit à la bibliothèque. Elle n'avait pas le droit de lire les rubriques criminelles des journaux sur Internet, mais elle avait persuadé un des gardes, un des plus grands fans de Meyerson, de lui imprimer un article chez lui et de le lui apporter. Un homme soupçonné de meurtre, retrouvé assassiné. Le cadavre en décomposition de Jeremy O'Brien, 58 ans, qui vivait aussi sous le nom de Henry Carter, et James Henry Bryant, a été retrouvé sur une péniche en train de couler dans Regent's Canal. En 1983, O'Brien était recherché par la police suite au meurtre d'une adolescente, Lorraine Reid. Mais il avait disparu quelques jours après le drame et la police avait conclu à son suicide. D'après les enquêteurs, dans les années 1980, O'Brien est parti s'installer avec son beau-frère en Espagne, où il a pris le nom de James Henry Bryant. En 1988, il a été blessé à la colonne vertébrale dans un grave accident de voiture et devait depuis se déplacer en fauteuil roulant. La police estime qu'il est revenu habiter en Angleterre l'an dernier, après la mort de son beau-frère. Il vivait dans une résidence senior dans le nord de Londres sous le pseudonyme de Henry Carter. En dépit des similitudes entre le meurtre de Jeremy O'Brien et celui de Daniel Sutherland il y a 6 mois, les deux corps ont été découverts sur une péniche, sur le canal, et les deux hommes sont morts poignardés au cou et à la poitrine, la police déclare ne faire aucun lien entre les deux homicides. En effet, Carla Meyerson, la femme condamnée pour le meurtre de Daniel Sutherland, a plaidé coupable et a fait des aveux complets. Par ailleurs, elle est incarcérée dans la prison de HMP Bronzefield depuis le mois de juillet. Carla arrêta là sa lecture. Elle replia la feuille et la rendit au garde. « Merci. Théo m'a dit qu'il vous enverrait un exemplaire dédicacé de son dernier livre par la poste. » Quelques jours plus tard, Carla reçut une lettre d'une criminologue qui proposait de lui rendre visite pour discuter de son cas. Carla n'en avait pas la moindre envie, mais cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas eu une conversation un tant soit peu intellectuelle qu'elle accepta. La criminologue, une jeune, si jeune, femme énergique, toute pimpante, était en réalité une étudiante qui souhaitait rédiger sa thèse sur Carla elle-même et, à partir de là, peut-être publier un article. Et pourquoi pas un livre? Dans cette affaire, il y avait déjà eu des faux aveux. Et si l'histoire s'était répétée? Et si Carla était la victime, consentante, d'une erreur judiciaire? Y avait-il un tueur en série qui s'attaquait aux hommes qui habitaient aux abords de Regent's Canal? Ou à d'autres tueurs? La pauvre jeune fille semblait convaincue de sa théorie loufoque, aussi Carla eut de la peine de devoir faire éclater sa bulle spéculative. Non, il n'y avait pas d'erreur judiciaire, expliqua-t-elle calmement, ni de tueurs en série sévissant le long du canal. Les deux affaires n'avaient rien à voir.
Mais votre mari, il pense que...
Ah, vous avez vu Théo, soupira Carla avec un sourire d'excuse. Vous devez prendre ce qu'il vous dit avec des pincettes, vous savez. C'est un rêveur. Il vit dans son monde à lui.
Alors le meurtre, c'était... C'était vraiment vous ?
Demanda encore la visiteuse, son joli minois pétri de déception. Oui, c'était moi.
Mais pourquoi? Pouvons-nous parler du pourquoi?
Dans mon email, j'ai été très claire. Je ne suis pas disposée à discuter des détails. Je suis désolée.
Quel dommage, vous êtes tellement atypique. Classe moyenne, diplômée, célibataire.
Quel rapport avec le reste? L'interrompit Carla. Mon statut marital, je veux dire.
Eh bien, les femmes qui tuent ont tendance à se conformer aux attentes des stéréotypes de genre. D'habitude, elles sont mariées et mères de famille, par exemple. Vous ne collez pas vraiment au profil type.
Il y a eu une époque où j'étais mariée et mère de famille, dit tristement Carla.
Oui, mais... D'accord.
L'étudiante ne savait plus quoi dire. Dépitée, elle observait la pièce autour d'elle d'un air un peu curieux, comme quelqu'un qui se retrouve coincé en pleine discussion avec un invité rasoir à une soirée et qui cherche du regard un interlocuteur plus intéressant.
« Dites, » reprit-elle enfin, « vous pouvez peut-être au moins répondre à une question. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait ?
lors de ses aveux à Irène, pas à la police, parce qu'elle avait été beaucoup moins prolixe avec les enquêteurs. Eux avaient eu droit à des demi-aveux, elle leur avait donné les grandes lignes et avait refusé de s'étendre sur les détails. Carla avait balayé l'idée que les actes de Daniel avaient pu n'être qu'une bêtise d'enfant. Elle avait parlé de harcèlement, de manipulation, et elle le pensait. Cependant, à présent, quand elle laissait son esprit vagabonder, et il n'avait guère mieux à faire, il s'aventurait dans des endroits qu'elle aurait préféré éviter. Elle se demandait si ce qu'elle avait qualifié dans sa fureur de manipulation n'était peut-être pas autre chose. Et si les manœuvres de séduction de Daniel n'étaient en réalité pas calculées? Et si c'était simplement sa manière d'aimer, et s'il ne pouvait pas faire autrement? Peut-être qu'en fin de compte, l'histoire qu'elle s'était racontée n'était pas plus factuelle que le mythe que Daniel s'était forgé au sujet de sa genèse. C'était un chemin dangereux à emprunter, d'autant plus qu'il était à sens unique. Car une fois qu'elle se fut engagée dessus, elle découvrit qu'elle ne pouvait plus faire demi-tour. Ces jours-ci, quand Carla repensait à ce qu'elle avait fait, elle ne voyait plus ses actions de la même façon. Fini l'anesthésie de la peur et de l'euphorie. Car oui, dans ce moment enfiévré, c'était aussi de l'euphorie qu'elle avait ressentie. Elle voyait désormais la brutalité de son acte. Le sang, oh, tellement de sang. Le bruit qu'avait émis Daniel, l'affreux gargouillis dans sa gorge, le blanc halluciné de ses yeux, l'odeur du métal, celle de l'urine, le parfum de l'agonie et de la terreur. Elle devait avoir perdu l'esprit ce jour-là. Pouvait-elle se raconter cette histoire-là? Saurait-elle se convaincre que, folle de douleur et de chagrin, elle avait agi par pulsion, sans réfléchir? Assise là, dans le parloir de la plus grande prison pour femmes d'Europe, un espace qu'elle partageait chaque jour avec des détenus paumés, misérables ou démunis, mais aussi bien sûr certaines des pires criminelles que comptait le Royaume-Uni, Carla se demanda si elle était vraiment à sa place. Aurait-elle pu agir différemment si elle avait eu toute sa tête? Aurait-elle pu ne rien faire? Choisir de continuer son existence en acceptant de savoir ce que Daniel avait fait et en enfouissant ce secret au fond d'elle-même? Mais enfin, qu'y avait-il de sensé là-dedans? Comment aurait-elle pu choisir de vivre dans un monde dans lequel Daniel était encore vivant, un monde dans lequel elle risquait de le croiser, de respirer le même air que lui? Un monde dans lequel demeurerait l'éventualité qu'elle ressente encore quelque chose pour lui. Une forme de tendresse, quelque chose qui ressemble à de l'amour. C'était cette éventualité qu'elle avait dû éliminer.
Madame Meyerson, est-ce que vous avez des remords?